France Culture. France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Si le XXe siècle était le siècle des intellectuels, selon l'expression de Michel Vinocq, qu'en est-il du XXIe ? Depuis l'époque où Sartre, Camus, Foucault ou encore Aron s'imposaient comme autant de figures tutélaires au sein de la cité, force est de constater que l'espace public de notre démocratie s'est profondément modifié. Entre l'accélération du temps médiatique, l'apparition des réseaux sociaux comme nouvelle agora et l'émergence d'une vidéosphère concurrençant le support de l'écrit, quelle place notre société réserve-t-elle à la vie des idées ? Et si c'était le modèle même des intellectuels, tel qu'il s'est imposé dans la République française au moment de l'affaire Dreyfus, à savoir comme une fonction hybride, à mi-chemin du savant, du scientifique, de l'écrivain, de l'artiste, du militant, peut-être du prophète. Et si c'était ce modèle qu'il fallait repenser, actualiser, voire remettre en cause ? Peut-on défendre encore l'idée d'un intellectuel total, polyvalent, dont l'engagement serait universel ? Faut-il prôner au contraire la prolifération de ce que Michel Foucault nommait des intellectuels spécifiques, à savoir des savants qui, lorsqu'ils se mêlent des affaires de la cité, ne s'écartent pas de leur champ d'études et de travail ? Comment théoriser enfin l'intrication chez l'intellectuel d'un travail théorique et d'une quête éthique, comme si la rigueur de la pensée s'accompagnait d'une normativité morale ? L'intellectuel peut-il encore exister au XXIe siècle ? J'aurai le plaisir d'en débattre sans préjugés, aux côtés de trois personnes dont je ne sais au demeurant si elles se reconnaissent elles-mêmes dans le paradigme de l'intellectuel, l'essayiste et journaliste Jean Birnbaum, le philosophe Jean-Claude Monod et la sociologue Gisèle Sapiro.
France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Bonjour Jean Birnbaum.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au journal Le Monde, responsable du Monde des Livres et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, La force d'être juste, paru récemment aux éditions Flammarion. Bonjour Jean-Claude Monod.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, directeur de recherche au CNRS. Vous avez été mon professeur, de film master de l'ENS, c'est et notamment auteur de plusieurs ouvrages, Qu'est-ce qu'un chef en démocratie, et aussi notamment La raison et la colère, un hommage philosophico-politique à Jacques Bouvresse, aux éditions du Seuil. Et bonjour Gisèle Sapiro.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directrice d'études à l'EHESS, directrice de recherche au CNRS, et notamment directrice de l'ouvrage « L'espace intellectuel en Europe » aux éditions de La Découverte, et auteur notamment de « Des mots qui tuent » à retrouver au format poche aux éditions Point. Alors, point de départ de cette émission, je pense qu'on va passer l'heure à définir la notion même d'intellectuel et à la redéfinir. Mais si on part de la définition la plus large du terme, une définition, je dirais presque négative, l'intellectuel, celui qui n'a pas un travail manuel, quelqu'un dont le métier a un rapport aux idées, qui travaille dans le monde du savoir, et qu'on essaye de se demander qu'en est-il de cette figure aujourd'hui ? Il y a ces phénomènes que j'ai évoqués en introduction par rapport à l'époque de Sartre, ou de Foucault, ou de Camus, accélération du temps médiatique, apparition de chaînes d'infos en continu où il y a des éditorialistes, des experts de plateau qui peuvent avoir peut-être éventuellement remplacé le rôle d'intellectuel, les réseaux sociaux où toutes les paroles sont horizontales, la vidéo qui remplace de plus en plus le support de l'écrit. Je voudrais partir d'une question toute simple, Jean-Claude Monod, mais face à ces changements, dans quelle mesure affectent-ils le rôle et la fonction de l'intellectuel dans la société ?
C'est une question importante et difficile. Bon, on peut considérer que la place de l'intellectuel a été liée très longtemps à un certain magistère lié au livre, lié à la forme du livre, lié aussi à la forme de l'article, de journal, de la tribune, de l'intervention. Mais si on pense à l'acte de naissance de l'intellectuel, souvent on le présente chez Zola et son article J'accuse, mais c'est un très long article, c'est une intervention, et qui fait intervenir une aura, un prestige acquis ailleurs que dans le champ médiatique, acquis ici par la qualité de romancier de Zola, et en plus un romancier particulier qui enquêtait, donc c'est aussi lié à un travail d'enquête. Toutes ces dimensions, aujourd'hui, sont effectivement un peu déstabilisées, je pense. L'aura spécifique de quelqu'un qui l'aurait conquise sur le plan du savoir ou du talent artistique, elle est un peu en train de se dissoudre. Peut-être les personnes les plus entendues dans l'espace public ne sont pas les intellectuels, mais des influenceurs. Enfin, il y a d'autres figures. Maintenant, vous citiez les éditorialistes. matérialisme, vous citiez aussi tous ces formats très courts qui se prêtent mal au style d'intervention de l'intellectuel, qui était plutôt quand même argumentatif, orienté éventuellement vers la preuve, etc. Tout ça, à l'ère d'Internet, est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs de déstabilisation de la figure classique de l'intellectuel. Et si vous prenez la définition très large que vous avez donnée, on peut dire que tout le monde, maintenant, peut se considérer comme intellectuel, et je le dis sans péjoration, hein, c'est finalement parce que les gens se documentent, essayent de se faire leur point de vue, estiment qu'ils ont un point de vue critique. Il y a eu une élévation du niveau scolaire considérable depuis Zola, c'est absolument... Donc, c'est assez bien fondé de dire que, bon, les producteurs d'idées, ils débordent largement le cadre de l'académie, de l'université, de la recherche. Donc, les frontières ont beaucoup bougé. Ça ne veut pas dire que les intellectuels aient perdu leur fonction, notamment leur fonction critique. Je pense qu'il y a une fonction critique. C'est Habermas qui avait distingué entre l'espace public de manipulation, l'espace public manipulé et l'espace public critique. Et je pense qu'on est aujourd'hui dans une espèce de lutte constante, hein, entre des formes quand même très déterminées par des agendas idéologiques et économiques, dans l'espace public, et des formes plus autonomes qui essayent de faire valoir des points de vue critiques à partir de données, d'enquêtes. Et donc, cette polarité, je pense qu'elle existe. Et puis, je pense que les intellectuels sont quand même des animaux plus adaptatifs que ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'ils essayent aussi d'utiliser ces nouveaux moyens, et je crois qu'on le fait tous. Moi, dans le métro, en venant, je regardais mon téléphone, et d'ailleurs, je constatais je crois que c'est un comédien mentaliste, un jeune qui s'appelle Charlie Head, je crois, qui faisait toute une critique de l'assujettissement au portable, en disant qu'il s'apercevait qu'il allait passer 20 ans de sa vie à scroller et que c'était pas possible. Donc on voit que le discours critique, il peut être porté aussi par d'autres. Mais je pense que les intellectuels aussi investissent ces espaces. Alors c'est compliqué, hein. C'est Pierre Bourdieu qu'on a cité tout à l'heure qui se demandait est-ce qu'on peut critiquer la télévision à la télévision. On peut se demander aujourd'hui si on peut critiquer les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux et comment est-ce qu'on peut, s'il faut les critiquer en une minute, c'est autre chose que de déployer un discours critique. Mais je pense que on pourra y revenir, on pourra citer des exemples d'intellectuels qui utilisent Facebook, qui utilisent Instagram. Oui, mais moi, je disais à des fins assez promotionnelles. Mais il y a des gens, et puis j'ai vu par exemple quelqu'un, Jean-Marc Jancovici. Il y a une page Facebook qui est suivie par 150 000 followers, ce qui n'est pas mon cas du tout, hein, et qui est en fait gérée par des bénévoles. C'est amusant, c'est-à-dire il y a des gens qui au fond s'inscrivent dans la promotion des idées de cet intellectuel, qui construisent un espace. J'ai vu aussi que pour Gabriel Zucman, par exemple, il y avait un peu des jeunes gens autour qui essayent de promouvoir. Donc il y a un aspect de transformation du mode d'intervention pour le rendre aussi plus audible et plus accessible au plus grand nombre.
C'est très intéressant cette idée, Gisèle Sapiro, de l'universalisation de l'intellectuel. Peut-être que ma généalogie sera hâtive, vous me le direz, mais quand la notion d'intellectuel a été pensée, la parole publique n'était pas donnée à tout le monde, puisque par définition, pour avoir accès à cette parole publique, il fallait publier des livres, écrire dans les médias, dans les journaux, etc. Est-ce que la révolution numérique, en offrant cette parole publique à tous les citoyens qui ont un téléphone portable et des comptes sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire en tout cas en France, à vraiment tout le monde, a universalisé cette position-là de l'intellectuel?
Oui, alors tout à fait, mais en même temps, il faut aussi rappeler que c'est l'éducation qui a fait ça. C'est-à-dire que à la fin du 19e, c'était 1,5% de la classe d'âge des garçons qui accédaient à la fin d'études, au baccalauréat, en fait. Donc aujourd'hui, la démocratisation de l'accès à l'enseignement fait qu'il y a beaucoup plus d'intellectuels en potentiel, puisqu'il y a beaucoup plus d'accès au savoir, à la connaissance savante codifiée dans les livres, parce qu'il y a d'autres formes de savoir et de connaissances. Donc cette démocratisation-là, elle est antérieure, et mai 68, c'est aussi un reflet de ça. C'est la première vraiment contestation de cette figure de l'autorité de l'intellectuel total, c'est mai 68. Hein, ce sont les étudiants qui disent, nous aussi on a des choses à dire, et on n'est pas forcément d'accord avec nos aînés, on peut leur reprocher certaines choses. Maintenant, je suis absolument d'accord, ce que les réseaux sociaux ont permis de démocratiser, par exemple, quelque chose comme la critique de livres, qui était vraiment réservée à quelques personnes. Là, on voit que se développe. Alors, on peut être très critique de ça. J'entends parfois des critiques être très critiques, mais parfois, quand on lit Goodreads, ben, parfois, il y a des critiques très argumentées. C'est des gens qui ont un capital culturel, qui peuvent être des professeurs à la retraite, ou du secondaire, ou même du primaire, et simplement des lectrices. Et en fait, voilà. Donc, il y a ces espaces. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans les médias, il y a quand même, on a la chance en France d'avoir quand même des espaces pour la parole des intellectuels, ce qui n'existe pas forcément dans le monde anglophone. Ce sont là les tribunes qui se multiplient beaucoup dans les médias. Alors certains médias en particulier, Le Monde, mais c'est quand même des espaces. Et de nouveaux médias aussi se sont créés. Je pense par exemple à AOC, Analyse Opinion Critique, qui sont des espèces d'enclaves où on peut discuter, pas seulement dans le monde académique, mais aussi avec des intellectuels hors du monde académique, des artistes, des critiques, des écrivains, des écrivaines. Alors, il y a aussi, je voulais mentionner aussi les festivals de littérature, qui sont aussi des espaces où il y a du débat d'idées. Pas toujours, pas dans tous, mais c'est quand même des espaces où on voit ça. J'ai étudié plus particulièrement les festivals internationaux de littérature, des espaces comme le Festival de Berlin, par exemple. Il y a toujours une conférence inaugurale, et par exemple, est invité Arundhati Roy, et qui va faire une conférence sur le crépuscule de la démocratie. Enfin, voilà.
Des festivals de philo aussi, comme et alors, voilà. Philo à Lille, par exemple, où il y a énormément de monde.
Oui, j'avais d'ailleurs participer à Philo à Lille, c'est un très très bon festival. Il y a des festivals plus engagés, il y en a dans différents endroits. Il y a un festival Raison d'agir. Enfin voilà, il y a beaucoup de ces espaces qui sont des espaces publics et des espaces de circulation de la parole, pas toujours aussi médiatisés. Je voulais aussi mentionner en fait les collectifs engagés. Qui sont moins visibles du point de vue médiatique, mais alors on peut faire remonter ces collectifs à la Ligue des droits de l'homme. Qui naît au moment où naît la figure de l'intellectuel, c'est au moment de l'affaire Dreyfus, mais ça s'est multiplié. Alors Foucault avait créé le groupe d'information sur les prisons, il y a eu le GISTI qui a été créé à la même époque, le GISTI sur les questions d'immigration, mais depuis les années 90, ces formats se sont multipliés, il y a eu ATTAC, il y a eu Raison d'agir, Acrimed, il y a eu un club Merleau-Ponty qui a existé de manière un peu éphémère, mais enfin voilà, donc Acrimed sur les médias. Donc il y a aussi ces espaces-là qui sont peut-être moins visibles médiatiquement, mais qui sont dans l'espace public.
Jean Birnbaum, concernant cette question, notamment de la révolution numérique et des changements qu'a pu connaître le champ médiatique ces dernières décennies, il y a un phénomène que vous aviez pointé du doigt dans votre livre Le courage de la nuance, c'est que les réseaux sociaux sont aussi, alors ce serait l'objet d'une autre émission, mais un espace de polarisation ou de brutalisation de la parole. Dans quelle mesure ce phénomène met-il en péril le travail même qui est censé être celui des intellectuels?
Vous l'avez presque dit déjà, c'est-à-dire qu'effectivement, si l'on considère que les intellectuels ou ceux qu'on appelle comme ça sont censés avoir du recul, exercer un esprit critique, ne pas donner leur avis sans avoir travaillé sur un sujet ou sans parler en connaissance de cause, évidemment que sur les réseaux sociaux, souvent c'est difficile, surtout vu l'évolution des réseaux sociaux. On a tous connu une époque où Twitter était un lieu où on pouvait rencontrer quelqu'un, discuter, reculer sur ses propres idées, faire reculer l'autre, toucher au sens intellectuel et du terme quelqu'un, le bouleverser parfois, être soi-même bouleversé par le discours de quelqu'un qu'on n'aurait jamais rencontré autrement. Puis les choses se sont durcies, Twitter est devenu de plus en plus une sorte de caisse de cloaque et de caisse de résonance du pire, mais pas seulement, hein, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et ce qui fait que beaucoup d'intellectuels, ou ceux qu'on appelle à nouveau comme ça, ont du mal à intervenir dans ce genre de lieu. D'ailleurs, et c'est pas la première fois. Vous savez, je me souviens d'un passage où Georges Bernanos, je sais pas si lui-même se serait défini comme un intellectuel, mais qui était un grand écrivain chrétien, au moment de la guerre d'Espagne, où la guerre d'Espagne polarisait absolument tous les débats et tout le monde s'écharpait là-dessus, il disait, on peut pas mettre la main dans cette discussion sans risquer une septicémie. Aujourd'hui, quand on va sur les réseaux sociaux, on a souvent cette sensation. et on a l'impression d'une accélération du pire. Beaucoup de gens prédisent une espèce de guerre civile, de violence, de polarisation, d'espace où la haine répond à la haine, la mauvaise foi systématiquement à la mauvaise foi, et c'est pas la première fois. Je citais dans le livre, dans Le Courage de la Nuance, justement, un passage d'Albert Camus après la guerre, en 1946, où il disait « Aujourd'hui, personne ne parle plus, sauf ceux qui se répètent, parce que le monde nous paraît mené par des forces aveugles et sourdes qui n'entendront pas les cris d'avertissement, ni les conseils, ni les supplications. » Bon, on a l'impression à nouveau qu'il parle vraiment d'aujourd'hui. Et il disait « Le dégoût m'était venu de toutes les formes d'expression publique, j'avais envie de me taire. » Il est possible que quand aujourd'hui on est un ou une intellectuel, on ait envie de se taire. Sachant que il faut savoir ce qu'on appelle un intellectuel. Albert Camus n'appelait pas du tout un intellectuel, justement, quelqu'un qui avait fait des études ou qui était savant. Il disait, lui, pour lui, le courage de la mesure, comme il disait, la capacité à discerner le bien du mal, discerner aussi le vrai du faux, c'était surtout ancré dans l'expérience. Chez lui, c'était la pauvreté de son enfance, la maladie, la tuberculose. Et il n'y avait chez lui aucun poujadisme, aucun anti-intellectualisme. Il n'était pas du tout anti-intellectuel. Il disait, intellectuel, oui. Intellectuel égale celui qui se dédouble, c'est-à-dire celui qui va douter, celui qui va refuser de coller à sa propre bêtise, à ses propres préjugés, qui va venir vraiment exercer un effet de cisaille sur sa propre connerie, quelque part. De ce point de vue, les intellectuels, on les retrouve un peu partout, et la question des réseaux sociaux se retrouve, à ce moment-là, elle est plus ambiguë que ce qu'on croit. Moi, dans mon nouveau livre, je cite tout un tas de gens que je pourrais considérer comme des intellectuels au sens d'Albert Camus, c'est-à-dire des gens qui souvent n'avaient pas fait d'études. Je cite par exemple un libertaire révolutionnaire anarchiste comme Victor Serge, qui s'est retrouvé traité de fasciste par ses propres camarades parce que quand il est libéré des camps staliniens, il dénonce le goulag et le fascisme, mais pas seulement le fascisme, le goulag aussi. Bon, est-ce que c'est un intellectuel? Je ne sais pas, mais pour Albert Camus, évidemment, puisque c'est quelqu'un qui va se cabrer contre son propre conformisme, contre le conformisme des siens. De ce point de vue, c'est un intellectuel. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les réseaux sociaux sont un lieu d'universalisation de ce type d'intellectuel, parce qu'on peut y retrouver des gens, y compris qui n'ont pas fait du tout d'études, et qui, parce que parfois ils n'ont pas fait d'études, vont être plus critiques que ceux qui en ont fait. Il faut quand même se souvenir que, et c'est peut-être pour ça que beaucoup d'intellectuels inconsciemment aujourd'hui ont envie de se taire aussi, ou ont du mal à prendre la parole, parce que quand même on sait depuis Hannah Arendt et plein d'autres que les intellectuels au XXe siècle, ça a été une faillite épouvantable. Hannah Arendt, quand elle quitte l'Allemagne nazie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit plus jamais ça, plus jamais d'intellectuels. Moi qui ai fréquenté que des intellectuels, aujourd'hui je peux témoigner que plus que d'autres êtres humains, ils ont tendance à suivre le mouvement. Donc les réseaux sociaux aujourd'hui sont peut-être là effectivement pour traquer ce confort du conformisme, ces délices du déni et ces enchantements de l'allégeance qu'on a retrouvé chez trop d'intellectuels assermentés au XXe siècle.
France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Pourquoi avoir refusé le prix Nobel?
Parce que je ne vois pas pourquoi une cinquantaine de messieurs âgés et qui font de mauvais livres me couronneraient. C'est au lecteur à dire ce que je vaux, ça n'est pas ces messieurs-là.
L'honneur, c'est d'être lu.
Ben oui, si vous voulez.
C'est tout le même honneur.
On se fait lire, on écrit donc, on se fait lire, c'est tout. On essaie de se faire lire. Il y en a qui ne réussissent pas, pour des raisons diverses, qui d'ailleurs souvent ne viennent pas entièrement en deux. Puis il y en a qui réussissent, voilà tout ce qu'on peut dire. Mais je ne me laisserai jamais donner un prix actuellement ou récompenser par une petite élite de 50 personnes dont je ne sais même pas si elles comprennent ce que je fais.
La voix de Jean-Paul Sartre expliquant pourquoi il a refusé le prix Nobel de littérature. Je tenais à ce qu'on entende cette archive, outre sa beauté, parce qu'elle nous renseigne peut-être sur une certaine forme d'imaginaire qui a pu être associée à la figure de l'intellectuel au XXe siècle, à savoir, et que Sartre incarnait totalement, l'intellectuel comme quelqu'un d'éminemment solitaire. Solitaire par rapport aux institutions. Sartre a quitté très très vite l'institution académique, a refusé un certain nombre de postes qu'on a pu lui proposer. Intellectuel dans son bureau, intellectuel séparé, intellectuel dont le travail est associé véritablement à une solitude totale. Gisèle Sapiro, est-ce que cet imaginaire-là, vous le percevez comme un mythe dépassable, voire dépassé, voire méritant d'être contesté?
Alors, la figure de l'intellectuel, elle émerge quand même comme un collectif, en tant que, derrière le nom intellectuel, à la fin du 19e, au moment de l'affaire Dreyfus, on a surtout la mémoire de Zola, mais il y a une pétition d'intellectuels qui se réunissent pour mettre en commun leur capital symbolique. Alors, pas forcément en tant qu'expert, Durkheim dit bien, explique après que c'est en tant que citoyen qu'il l'a signé, même si, dit-il, peut-être nous sommes habitués à avoir peut-être plus de recul ou de discernement, mais il ne se prévaut pas de son savoir. Mais ce qu'il défend, c'est des principes de vérité, justice, principes universels. Donc on peut dire que dès le départ, il y a cette tension entre l'individuel, même si on remonte aux philosophes du 18e, ils se réunissent. C'est ça, l'émergence de la figure de l'intellectuel, c'est aussi la capacité de pouvoir dialoguer, discuter à l'abri du contrôle par les pouvoirs. À l'abri aussi des salons mondains où il faut faire bonne figure et pas être trop ennuyeux. Donc il y a cette tension permanente, elle est, je dirais, inhérente à la condition intellectuelle. Donc évidemment, c'est aussi ce qu'on disait sur le magistère qui est maintenant contesté, cette magistère qui a souvent été incarné par des hommes blancs d'une certaine condition sociale, même si cette figure s'est universalisée. On peut penser à Senghor qui est devenu président de la République, mais a été avant un grand poète et grand intellectuel, et plein d'autres figures. Mais en France, très longtemps, ce magistère, il était incarné plutôt par ces figures individuelles qui étaient les plus visibles. Ça n'empêchait pas qu'il y ait des collectifs déjà, le comité de vigilance des intellectuels antifascistes avant la guerre, il y avait des femmes, il y avait des gens de toutes conditions, enfin voilà. Donc il y a ça, et puis il y a la question de la transformation historique aussi de la figure de l'intellectuel. C'est-à-dire qu'on a cet intellectuel universel, critique, qui intervient sur tous les fronts de la pensée. Sartre en a été l'incarnation. Il s'est construit aussi une généalogie qui passe par Voltaire, Zola. C'est cette figure qui commence à être contestée, justement, à la fois par l'émergence. Alors, elle est contestée dès l'affaire Dreyfus. Hein, Brunetière, le camp adverse qui veut soumettre la pensée à la raison d'État, Brunetière, par exemple, dit, il parle avec autorité sur des choses de leur incompétence. Et donc, c'est pour ça que Durkheim dit, lui, qu'il intervient en tant que citoyen. Mais donc, cette question est posée dès le départ de l'autorité. Et en même temps, ce qui se passe aussi à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la division du travail d'expertise qui s'accroît, qui se renforce. Et du coup, d'où peut-on parler ? Alors, il y a encore Sartre et philosophe. Les philosophes ont encore cette capacité de parler d'une position plus souveraine. Mais en même temps, la plupart des spécialistes des savoirs qui vont être les figures qui vont émerger, et l'assignation des intellectuels à ce travail d'expertise pour les pouvoirs, que ce soit le pouvoir politique ou économique, ça pose un nouveau défi. D'où l'émergence de la figure de l'intellectuel spécifique théorisée par Michel Foucault, qui essaye de penser contre Sartre, contre l'intellectuel total, mais en prenant en compte la division du travail d'expertise et en même temps en se réappropriant la fonction critique face aux experts, c'est-à-dire en s'arrogeant un pouvoir de contre-expertise, que ce soit sur les prisons ou sur d'autres fronts sur lesquels il s'est engagé. Et puis derrière toutes ces figures, il faut un certain capital symbolique pour... Il y a une dimension d'autonomie face à des formes d'hétéronomie des intellectuels. Il y a des intellectuels d'institution, on a parlé des intellectuels communistes. Jean Birnbaum parlait aussi des intellectuels qui ont soutenu le nazisme. Donc, il y a des formes d'hétéronomie. Donc, la posture de l'intellectuel autonome, c'est aussi celle qu'on connaît le mieux. Et il y a la question de la spécialisation que je viens d'évoquer, mais il y a aussi la question du capital symbolique. Si vous êtes Sartre, ben, vous êtes plus visible et vous pouvez signer une tribune ou un éditorial, les éditoriaux étaient signés à l'époque par des intellectuels, tandis que si vous êtes un nouveau venu, vous n'avez pas de place, d'où les collectifs, parce que les collectifs permettent la socialisation, alors que ce soit les avant-gardes qui ont un nom collectif, les situationnistes, ou que ce soit les formes d'organisation de contre-expertise, que ce soit les clubs que j'ai cités, ou les groupements qui ont émergé dans les années 90, mais déjà dans les années 70.
justement sur cette question de la légitimité scientifique, académique, de l'intellectuel. C'est une question dont vous parlez, Jean-Claude Monod, dans votre livre « La raison et la colère », cet hommage à Bouveresse, puisque vous soulignez que pour Bouveresse, le risque de l'engagement militant, c'est toujours celui d'une élimination, d'une simplification du travail de la pensée. Et surtout, vous allez plus loin, puisque vous rappelez que Bouveresse avait un concept qui était celui, le concept de littérarisme, c'est-à-dire la manière dont certains intellectuels, certains philosophes en l'occurrence, au nom de cette souveraineté dont vous parlez, faisaient un usage complètement impropre du savoir et des sciences. Est-ce qu'il faut donc penser, aller jusqu'à dire que l'intellectuel est une forme un peu usurpée du savant ?
Pas forcément, mais il y a un risque d'imposture. C'est ce qui intéressait Bouveresse. Enfin, Bouveresse était quelqu'un de très exigeant hein, en termes justement de ce qui vous rend légitime à parler dans l'espace public et d'ailleurs aussi dans le champ académique. Et il estimait qu'en France, alors y compris, il y a cette dimension autocritique des intellectuels, hein, y compris dans le champ philosophique et une certaine formation philosophique qui vous permet de parler de tout, au fond, hein, quand vous avez fait de la philo, des classes prépa, etc., on peut à peu près parler de tout, hein, vous le savez comme moi, Nathan Devers, je pense que... mais est-ce qu'on en parle de manière informée? Est-ce qu'on en parle de façon fondée? Est-ce qu'on en parle en ayant vraiment effectué un travail? Et parfois, est-ce qu'on en parle, disons, en prenant les scrupules, en adoptant des scrupules suffisants pour se référer à telle ou telle dimension de la science? Je voyais, bon, pour ne pas le nommer, par exemple, Michel Onfray qui disait que le changement climatique n'existait pas, et d'ailleurs, il suffisait de faire un peu d'astrophysique pour le montrer. Là, j'avoue que je pense que ça aurait un peu fait rigoler Bouveresse en termes de captation de l'autorité de la science par quelqu'un qui est plutôt littéraire et qui n'a pas les moyens suffisants pour, disons, utiliser l'astrophysique, je pense, et qui l'invoque. Et le littérarisme dont parlait Bouveresse, c'était ça, c'était un peu l'opposé du scientisme. Le scientisme, c'est la position où on abuse de l'autorité de la science, mais disons, en se fondant sur la science. Le littérarisme, c'est un usage très relâché de la science dans le champ littéraire, où on va expliquer qu'une société ne peut pas se maîtriser elle-même au nom du théorème de Gödel. Enfin, on va utiliser, vous voyez, des arguments scientifiques sur un mode beaucoup trop léger aux yeux de Bouveresse, qui avait cette exigence, effectivement, d'une légitimité intellectuelle bien fondée, c'est-à-dire une légitimité qui sache vraiment de quoi elle parle. Ensuite, ça n'était pas contre l'engagement comme tel. C'est vrai qu'il était assez... Il y a un bon... Après, il faut se resituer aussi, vous savez, dans le contexte des années 60-70, dont parle aussi Jean Birnbaum, qui était... vous étiez très vite traité de toutes sortes de noms. Rien que le fait, pour Bouveresse, de s'intéresser à la philosophie analytique, pouvait le faire traiter d'agent de la CIA. Donc, il faut se comparer, mettons, à Alain Badiou. Donc, si vous voulez, c'était quand même un contexte de... extrêmement polarisé lui aussi et très idéologique au sens où il était admis que c'était même pas la peine non plus de lire tel ou tel auteur parce que je sais pas s'il était libéral par exemple, c'était pas la peine de lire Karl Popper parce qu'il était censé être libéral et libéral c'est-à-dire de droite, c'est-à-dire fasciste. Bon, je vais, vous voyez, mais il y avait une série d'amalgames, de glissements, etc., qui insupportaient totalement Bouveresse, qui tout en étant profondément ancré à gauche, hein, Bouveresse se considérait vraiment comme un homme de gauche, mais ne supportait pas les formes d'intimidation, d'usurpation, d'imposture intellectuelle. Et c'est évidemment un chemin escarpé. Et sur la question des médias aussi, il est évidemment très critique, ou des intellectuels médiatiques, avec cette espèce de décorrélation éventuellement entre l'intellectuel qui a une légitimité savante et l'intellectuel qui a éventuellement d'ailleurs un talent pour les médias, ce qui je pense qu'il ne reconnaissait pas totalement, il faut reconnaître par exemple des gens comme Bernard Lévy ou Alain Finkielkraut, des gens qui ont un discours très fluide, qui ont un sens de la formule, etc., mais qui n'effectuent pas forcément le travail qu'on pourrait attendre d'un intellectuel au sens savant du terme. Donc il y a eu cette décorrélation qui est un phénomène qui inquiétait beaucoup des gens comme Bouveresse ou d'ailleurs Pierre Bourdieu, hein, là-dessus. Et bon, après, on peut estimer qu'il était peut-être dans une posture hyper critique par rapport à la presse. Je me souviens, il y a cette citation qu'il donne de Karl Kraus, qui est un grand polémiste viennois, qui disait « Il y a des institutions dont l'abus est l'essence, et notamment la presse. » Si l'abus est l'essence de la presse, ce qui est peut-être vrai, hein, c'est-à-dire qui est forcément sensationnaliste, qui est forcément en fait biaisé, qui est forcément un peu assujetti à des intérêts économiques, ça devient difficile de penser quelque chose comme une presse critique, etc. Donc, c'était une position extrêmement forte, mais qu'on peut sans doute nuancer aussi.
Concernant la question des appartenances d'un intellectuel, on parlait de l'appartenance à l'institution, il y a une autre question, Jean Birnbaum, que vous étudiez en détail dans votre dernier livre, La force d'être juste, qui est l'appartenance à un camp. Et ce livre aussi, qui est à la fois une lettre à la jeune génération, ça commence ainsi, une scène dans un train, une discussion avec un jeune, une galerie de portraits d'intellectuels, et aussi, on pourrait dire, une forme de critique, en tout cas tout part de là, d'une expression qu'on entend beaucoup aujourd'hui, faire le jeu d'eux. Quand un intellectuel se met à ne pas être complètement dans son camp, on l'accuse de faire le jeu de l'adversaire. Est-ce que le campisme est le contraire, selon vous, de la vie et de l'exigence intellectuelle ?
Bah, complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut être savant ou pas, on peut être bardé de diplômes ou pas, mais dès qu'on colle à un camp et qu'on accepte le fait d'être rivé à ce camp, je pense que normalement, on ne devrait plus être qualifié d'intellectuel, ou en tout cas, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le mot intellectuel a plus grande valeur. C'était beau qu'on entende la voix de Sartre. Moi, j'adore Jean-Paul Sartre, j'ai offert beaucoup ses livres, je connais par cœur des passages, des mots de son autobiographie, des choses comme ça. Et par ailleurs, c'est l'épouvante quand vous regardez ses prises de position politique. Je me souviens d'ailleurs que dans la belle revue où travaille Jean-Claude Monod, la revue Esprit, qui est une très belle revue, je ne sais plus si c'est dans cette revue ou ailleurs, j'ai lu qu'à une époque, vous aviez rendu hommage à Claude Lefort, qui est un grand philosophe anti-totalitaire, un numéro spécial de Claude Lefort, et on m'a raconté où j'ai lu, je ne sais plus, qu'à une époque, des gens avaient proposé à Jean-Paul Sartre un article de Claude Lefort, donc philosophe qui vient de socialisme ou barbarie, de l'extrême gauche, etc., et puis qui ensuite s'est mis à être très critique vis-à-vis du totalitarisme. Et Claude Lefort, apparemment, on avait proposé un article à Jean-Paul Sartre de Lefort. Et Sartre l'avait refusé. Et quelques années plus tard, des gens disent à Sartre, quand même, bon, je dis en substance, quand même, est-ce que t'as pas un peu déconné, t'aurais dû le publier cet article de Claude Lefort. Et il a dit, oui, à l'époque, j'avais tort, mais j'avais raison d'avoir tort. Voilà. Et ça, c'est passionnant. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que l'intellectuel sartrien, ou l'intellectuel tel qu'on l'a tous, à même la peau intégrée, c'est-à-dire c'est l'intellectuel, c'est celui qui a raison d'avoir tort. Non seulement sur le moment, mais même avec le recul, il avait raison d'avoir tort. Et moi, effectivement, tous les gens que je cite dans mon livre sont des gens, des losers, des gens qui, sur le moment, disaient « Ah bah moi, je veux bien combattre le fascisme, mais je veux pas le faire sans dénoncer le stalinisme. Ah moi, je veux bien combattre le franquisme, mais je veux pas le faire, y compris les armes à la main, mais je veux pas le faire en cautionnant les mensonges et les crimes de mon propre camp en Espagne. Oui. Je veux bien soutenir le FLN algérien et la lutte indépendantiste, mais je veux pas le faire complètement en taisant et en occultant les crimes du FLN. » Et par exemple, je cite une femme que j'aime beaucoup et à laquelle il faut rendre justice, qui s'appelle Monique Gadan, qui était une philosophe, qui était prof de philo, qui était communiste, qui a épousé un haut dirigeant du Parti communiste algérien, qui s'est installé en Algérie après l'indépendance et qui très vite a eu plein de pépins parce qu'elle cherchait à travailler librement, etc., et que c'était difficile. Et bon, je passe les étapes, elle se retrouve avec son fils qui se fait torturer à l'électricité par le régime algérien. Donc elle se dit, bon, c'est bon, je m'en vais. Donc elle rentre en France et elle dit, mais quand je suis rentrée en France, personne ne voulait entendre ce qu'on avait à dire, nous autres, qu'on appelait les pieds rouges, c'est-à-dire ces gens qui étaient restés, des gens socialistes, communistes ou autres, ou anarchistes qui étaient restés là-bas pour essayer de construire le socialisme en Algérie. Personne ne voulait nous entendre quand on parlait de la torture, quand on parlait de ce qu'on avait subi, de la surveillance policière, de l'absence totale de démocratie. Personne ne voulait nous entendre, sauf la droite et l'extrême droite. Donc effectivement, pourquoi ? Parce que, et ça rejoint votre question, parce que là, comme à chaque fois, et ça recommence aujourd'hui, on disait à cette femme, oui, d'accord, ce que tu as vécu, c'est pas super, ça a l'air compliqué, ça a l'air très dur, mais si tu en parles, si tu donnes écho à tout ça, tu vas faire le jeu de l'extrême droite, tu vas faire le jeu de l'OAS, tu vas faire le jeu des partisans, des nostalgiques de l'Algérie française. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve. Et je dois dire que moi, tout à l'heure, je parlais de Camus et du rapport à l'expérience, aux études. Moi, j'ai une admiration totale pour les universitaires, pour les gens qui construisent une œuvre. J'ai beaucoup d'estime, voire d'admiration pour Jean-Claude Monod et Gisèle Sapiro. Donc je ne veux pas du tout être dans un poujadisme et dans une opposition entre ceux qui ont les savants et les non-savants, comme si le courage se distribuait. Mais voilà, la question n'est pas là pour moi. La question, elle est effectivement, aujourd'hui comme ailleurs, que ce soit chez les intellectuels assermentés ou les autres, qui va avoir le courage, dans une réunion à l'EHESS ou ailleurs, de dire ce que personne veut dire, sans avoir peur de faire le jeu d'eux et sans s'auto-censurer parce qu'on a peur de faire le jeu d'eux.
France Culture, sans préjugés. Nathan Devers.
Jean Birnbaum, vous esquissiez un petit peu la question que je voulais poser dans cette troisième partie, qui est la question morale. on a cette ambiguïté depuis peut-être l'affaire Dreyfus, depuis le XVIIIe siècle, que l'intellectuel est en effet à mi-chemin entre une dimension de savoir et une dimension de, sinon de vertu ou de quête éthique, un peu comme chez Platon, cette identité du vrai et du bien. Vous citez deux anecdotes sur lesquelles je voulais revenir dans votre dernier livre. D'abord, enfin, anecdote, hein, histoire, Orwell, qui, pendant la guerre, bien que s'engageant clairement dans l'hommage à la Catalogne du côté du camp républicain, critique un certain nombre de choses, à savoir la mauvaise foi, le mensonge organisé, la falsification des faits qui existent au sein de son propre courant, comme s'il y avait une forme de lucidité qui était totale. Et deuxièmement, exemple aussi très intéressant, l'autocritique de Morin sur son silence par rapport au crime du communisme. La question que je voulais vous poser peut-être pour initier cette...
Edgar Morin,
exactement. Cette question-là, c'était dans quelle mesure un intellectuel, c'est avant tout quelqu'un qui doit avoir cette vertu, ce courage, avant même d'être dans une logique de savoir.
Bah, dans toutes les mesures, c'est-à-dire qu'effectivement, la grande question, c'est est-ce que l'intellectuel ou les intellectuels ne sont pas particulièrement exposés au non-courage. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ont été, justement, Arendt en parlait très bien. C'est-à-dire, est-ce que quand on est agile intellectuellement, quand on est formé, très structuré intellectuellement, on n'est pas particulièrement exposé à la mauvaise foi, à la capacité, parce qu'on a la capacité à toujours retomber sur nos pieds, etc. Vous citiez Edgar Morin, effectivement, moi, dans le livre, je cite un passage de son livre que j'adore, qu'il faut absolument avoir lu, qui s'appelle Autocritique, qui est magnifique. Où il dit « J'aimerais me souvenir plus précisément des ruses mentales que j'inventais pour neutraliser ce qui aurait pu devenir désintégration en chaîne. J'étais conscient sur le plan des faits, mais mon entendement, comme une araignée, enroulait autour du fait brut un enchevêtrement de raisonnements, explications, justifications qui finalement le tétanisaient. Les faits étaient là, je les voyais, ils ne parlaient pas. » Et Arthur Koestler aussi, un autre grand intellectuel écrivain, disait après, à son retour, enfin plus tard, quand il dit « quand je suis allé en Union soviétique, je n'ai rien vu, mais mes yeux, mon esprit était entraîné à ne rien voir ». Donc je ne veux pas monopoliser la parole, j'ai trop parlé déjà, mais en tout cas, effectivement, pour moi, c'est ce que je dis dans le livre. Dans le livre, par exemple, je cite une rescapée, enfin, Les Justes au Rwanda, par exemple. Les Justes au Rwanda. Il y a un bouquin de Jean Hatzfeld magnifique sur les gens qui ont sauvé des Tutsis au Rwanda pendant le génocide, où il y a eu en quelques mois 800 000 morts, en trois mois 800 000 morts de personnes exterminées. Je cite une sage-femme qui est aussi infirmière, qui s'appelle Virginie, je crois, ou Sylvie, et à qui Jean Hatzfeld a dû dire « Bon, pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait ?» En fait, elle a simplement entraîné une jeune fille en la faisant passer pour quelqu'un de sa famille, elle lui a sauvé la vie comme ça. Et c'était un risque immense, parce qu'au Rwanda, quand vous sauvez un enfant Tutsi ou un Tutsi en général, vous étiez immédiatement, vous risquiez la mort. Et elle répond simplement, bah, Dieu nous propose des libertés, j'en ai pris une. Et ça, justement, c'est le grand débat qu'on pourrait avoir sur la question du collectif, de l'individualité. Quelle que soit la tradition sur laquelle vous branchez, que ce soit une tradition syndicale, politique, spirituelle ou autre, qui fait qu'à un moment donné, vous vous branchez sur quelque chose qui vous permet de vous cabrer contre le conformisme du moment, quitte à faire le jeu d'eux, etc., etc., eh bien, de ce point de vue, vous avez, oui, vous pouvez appeler ça une force d'âme. On parle de force d'âme en ce moment du côté de l'armée. Vous avez en tout cas ce courage qui vous permet de lutter contre vous-même et qui, pour Albert Camus, effectivement, définissait l'intellectuel.
Jean-Claude Monod, dans votre livre, vous citez une phrase que je ne connaissais pas de Canguilhem sur Cavaillès. « Avant d'être la sœur du rêve, l'action doit être la fille de la rigueur. » Je trouvais cette phrase très belle. Il y a une dimension dont on n'a pas parlé depuis le début, et quand on parle des intellectuels et de la morale, elle est centrale, c'est l'anti-intellectualisme, qui est un phénomène peut-être croissant aujourd'hui. Un des grands éléments de langage de cet anti-intellectualisme est d'appeler les intellectuels des bien-pensants. Qu'est-ce que vous inspire cette phrase, enfin cette expression?
Oui, je pense que l'anti-intellectualisme est assez bien porté et assez virulent aujourd'hui et réactive des schèmes qui ont été quand même mis en œuvre, je dirais, effectivement, dès l'affaire Dreyfus, les réactions, notamment de l'extrême droite, à ces figures D'où prétendent-ils mettre en cause l'armée, qui est la grande institution? D'où prétendent-ils mettre en cause la nation, puisqu'il y avait l'idée que, même si Dreyfus était innocent, il était impensable de mettre en cause la nation après ce jugement, etc. Donc il y a toujours ce soupçon à l'encontre des deux intellectuels d'être, comme le disait encore Karl Kraus, je crois, des oiseaux qui souillent leur propre nid, et en l'occurrence le nid c'est la nation beaucoup en ce moment. Il y a quand même un très fort nationalisme xénophobe qui est en train de monter en France, et les intellectuels qui persistent, disons, à défendre les droits de l'homme, l'état de droit qui est aussi mis en cause de plus en plus fortement, donc toutes sortes d'institutions démocratiques fondamentales vont être traitées en renégats, en personnes qui sont hors sol, en moralisateurs, qui ne sont pas ancrés dans le dit réel. Donc il y a une très forte prégnance en ce moment de schèmes anti-intellectualistes qui ont été forgés largement, je dirais quand même, à l'extrême droite. Si vous me permettez une incise un peu de chauvinisme familial, mais il y a un des premiers intellectuels refusards qui s'appelait Gabriel Monod, qui était un historien fondateur de la Ligue des droits de l'homme, et qui était poursuivi vraiment par la haine de Maurras, parce que justement c'était quelqu'un qui intervenait au nom de l'histoire, du savoir positif et de la morale, et Maurras du coup le traitait comme vraiment un étranger à la France, un état dans l'état, parce qu'en plus il était protestant, etc. Bon. Pardon, et c'était une assise. Et est-ce que j'ai répondu à votre question? Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, il y a cette dimension de la morale qu'a invoqué aussi, bien sûr, Canguilhem à propos de Cavaillès, grand résistant. Alors, il disait résistant par logique, parce que oui. Cavaillès était en même temps un mathématicien. Bon, c'est presque trop beau pour être vrai, ça, je dirais. Mais effectivement, la dimension morale est quelque chose qui permet, au fond, de se détacher et de penser aussi contre soi-même, contre les préjugés.
Alors, et justement, et ce sera la question de la fin, mais face à ces attaques anti-intellectualistes, qu'en est-il du combat, de la cause des intellectuels dans les années qui viennent?
Oui, c'est un très gros enjeu. Je voudrais d'abord préciser que je ne pense pas du tout que les intellectuels sont forcément des gens qui ont fait des études universitaires. Hein. La figure de l'intellectuel a été incarnée par des écrivains très très longtemps et ils n'étaient pas forcément doctes. Et d'ailleurs, ils se sont même affirmés contre les doctes de l'université. Et je suis tout à fait d'accord qu'il peut y avoir des intellectuels très peu courageux. Et malheureusement, on le voit aussi. On voit ce qui est en train de se passer aux États-Unis. On voit que les universités sont très très visé et que beaucoup s'adaptent et essayent de passer sous les radars alors que certains sont visés très directement. Il se trouve que je suis pas mal impliquée là sur dans les instances de défense de la liberté académique et donc et aussi des instances d'accueil d'intellectuels et artistes en danger avec le programme PAUSE ou Académie in Exile en Allemagne. Il y a aussi Philippe Schwartz Initiative, on voit des trajectoires incroyables de gens qui se sont opposés à des régimes autoritaires et qui sont aujourd'hui vraiment menacés de mort. Je voulais mentionner la sociologue et écrivaine Pnar Selek, qui est maintenant française, mais qui depuis 25 ans est toujours persécutée par le régime.
Merci beaucoup à vous trois pour cette passionnante émission et désolé pour le temps qui nous rattrape. Merci beaucoup à Aline Biette pour la préparation. Merci beaucoup à Souad Boukorsa qui l'a réalisée et mise en onde. Et vous pouvez retrouver l'émission sur le site et l'application de Radio France. À très bientôt.